Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
On les appelle des EIP ou EHP. Ils bénéficient parfois de PPRE EIP ou EHP sous l'autorité du DASEN, bien sûr. À Paris, leur référente académique s'appelle Florence Paris, justement, et elle est bien seule, d'ailleurs, pour s'occuper de ces nombreux enfants qui ne sont pas seulement des acronymes, mais des enfants à haut potentiel ou intellectuellement précoces, et qui ont droit, parfois, grâce à cette dame, à des programmes personnalisés de réussite éducative. À l'époque où on les appelait encore des surdoués ou des zèbres, nous leur avions consacré, dans Les Pieds sur Terre, une émission particulièrement touchante qui s'appelait « Dans la tête des surdoués ». Elle avait été enregistrée dans une école spéciale pour ceux qui n'ont pas de PPRE ou qui ne s'adaptent pas au système scolaire traditionnel et qui s'appelle Georges Gusdorf. Un pied sur terre devenu une sorte de classique, de gold, diffusé pour la première fois en 2009, puis multi-rediffusé avec toujours autant de bonheur. Il y avait cet enfant qui voulait tout miniaturiser, y compris lui-même et la terre pour la réparer. Un autre avec une idée qui lui faisait une sensation bizarre au ventre et qui trouvait que dans son drôle de cerveau, ça travaillait beaucoup pour trouver une réponse qui n'arrivait jamais. Et puis pour ceux qui s'en souviennent, il y avait Joséphine. Joséphine, évidemment. Et à chaque diffusion, son lot de mails, de commentaires, de tweets pour nous demander ce que devenait Joséphine avec le temps. 11 ans donc plus tard, nous sommes retournés voir cette IEP devenue une belle jeune fille aux yeux verts et à la peau mate, aux cheveux courts coupés à la garçonne. Elle a gardé son visage d'enfant et son sourire facétieux. Elle porte ce jour-là des bottines bordeaux en cuir, à talons hauts, un jean bien ceinturé à la taille, avec un pull en laine qui lui rentre dans le pantalon. Elle semble à l'aise dans son corps, elle marche de manière assurée, d'un pas vif, bien ancré dans le sol, tout en regardant à chaque instant autour d'elle, comme si son esprit pouvait s'envoler n'importe où. Elle vit à Paris et elle invite ce jour-là Élise Andrieux à la retrouver au jardin des Tuileries, près d'un arbre déraciné. Dans la tête de Joséphine, 2009-2020, c'est comment? C'est différent? Pareil? Autre chose? Très peuplé? Réponse tout de suite.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Comment tu t'appelles?
Joséphine.
À quel âge?
8 ans.
Toi, t'es dans quelle classe?
CM1. J'adore cette école parce qu'on s'amuse bien et les devoirs sont pas trop compliqués. J'aime bien.
Pourquoi l'école avant, tu n'aimais pas?
Non, c'était trop compliqué et puis je comprenais pas les cours.
À cause de quoi?
De ma dyslexie. J'ai du mal à comprendre, du mal à écrire. On ne l'a jamais expliqué pourquoi j'étais différente. Mais il y a un truc que je sais, c'est parce qu'on est né différent et qu'on a beaucoup plus de mal à comprendre que les autres.
Et ça te fait bizarre, toi, d'être différente?
Oui, très bizarre. Ça me fait un choc, comme si j'étais rejetée des autres.
À quoi tu penses avant de t'endormir le soir?
Je pense... Pourquoi les plantes ne parlaient pas? Pourquoi... Je pense qu'elles parlent, moi. Parce qu'elles ont un langage, mais on ne peut pas les comprendre. Parce qu'on ne sait pas parler aux plantes. Faudrait qu'on invente quelque chose pour parler aux plantes et pour les comprendre. Ce serait tout petit et on pourrait comprendre ce que les plantes diraient, on leur parlerait. Et moi, je pense qu'elles ont plein de choses à nous dire. Ce qu'elles ressentent et plein de choses. Je les parle avec le cerveau et voilà.
Tu te souviens de quoi quand on s'était vu quand t'avais 8 ans?
Je me rappelle d'être dans la salle de classe. Il faisait assez sombre, ça devait être l'hiver, je pense. Peut-être l'automne. C'était dans un des premiers locaux de l'école Georges Gusdorf. Et je me rappelle que tu m'as interviewée. Et maintenant, donc 12 ou 11 ans plus tard, tu m'as recontactée pour savoir ce que j'étais devenue. Je vais avoir 20 ans dans un mois, un peu plus. Wow. Ça fait bizarre de dire que je vais avoir 20 ans. C'est un âge marquant, ça fait... En plus, la dernière fois qu'on s'est vu, j'en avais 8. Ça fait bizarre.
Joséphine, est-ce que tu parles toujours aux arbres ou aux plantes?
Toujours. Pour moi, c'est normal de prendre le temps de parler aux arbres. C'est beau avec les arbres de juste ne rien dire. On a l'impression de faire partie d'eux. J'aime bien le calme du silence. Surtout quand je parle avec les arbres et quand juste je m'assois près d'un arbre et je communique sans mots. En fait, c'est vraiment une conversation par le regard. Et du coup, ça me fait ressentir des choses. Et après, c'est moi qui les mets dans les mots, mais... Moi, j'aime vraiment beaucoup cet endroit. C'est là où je vais tout le temps. Donc, du coup, bon, on peut se poser sur le banc, là. J'adore le parc des Tuileries. Elles m'ont toujours intriguée, ces statues.
Tu te souviens quand t'étais enfant?
Ah, j'étais très rêveuse. J'étais un peu dans la lune, dans mon monde toujours. Un peu moins terre à terre que maintenant. Mais c'est pas une mauvaise chose d'être devenu plus concret et plus terre à terre. Mais c'est juste... Maintenant, il faut se séparer un peu de sa bulle. J'ai beaucoup de nostalgie par rapport à mon enfance. Parce que en même temps, c'était pas la meilleure période de ma vie. J'étais pas du tout à l'aise dans mon ancienne école, c'était l'enfer, horrible. On me disait, oui, elle est bizarre, on l'abandonne, enfin, on la laisse de côté, elle se débrouillera, elle est bizarre, il faut qu'elle aille dans un enseignement spécialisé. Donc, c'est ce que j'ai fini par faire, hein. Je suis allée dans un enseignement spécialisé, mais pas du tout pour personnes handicapées. Donc je suis allée à Gustav, qui est une école pour personnes à haut potentiel. Et là, j'ai découvert que je pouvais être moi-même, que je pouvais être... Enfin, m'assumer, être ce que je voulais être. Et grandir en étant ce que je veux. Depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai découvert plein de passions. J'ai découvert ma passion pour la philosophie et j'ai découvert ma passion pour le théâtre. Au début, ce que j'aimais dans le théâtre, c'était l'imitation. Mais ma vision du théâtre a beaucoup évolué avec moi parce qu'après, j'ai découvert que le théâtre, c'était pas imiter, c'était vivre les choses, mais. Enfin, les vivre, mais en les jouant. En étant théâtrale, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai adoré ça, cette sensation de pouvoir vivre mille choses tout en même temps restant moi-même. Ça, j'ai vite adoré. Je crois que je le sais depuis à peu près la quatrième que je veux être comédienne. C'était vraiment mon rêve depuis longtemps. Mais ça s'est concrétisé au lycée. Au lycée, j'ai commencé à faire des stages. J'allais dans des écoles type conservatoire, lucernaire. Je faisais d'autres cours à côté, pas que au lycée. Donc ça se concrétisait de plus en plus. Et après, par contre, c'est au lycée que j'ai découvert que vraiment la philo, c'est ce qui me fascinait. Et que je voulais faire mes études supérieures dessus. Et du coup, j'ai eu mon bac, avec mention assez bien. Je m'y attendais pas. Je suis rentrée au cours Florent après le bac. J'ai fait de la philo à la Sorbonne. J'en fais toujours. Maintenant, je suis en troisième année dans les deux. Et c'est tout. Enfin, je sais pas. Je progresse bien dans ma vie. Je suis heureuse d'être ce que je suis, d'assumer ce que je suis. Et voilà.
Dans les arbres, je préfère le sol plus rare parce qu'il est beau. Pour moi, il représente la grâce. Quelquefois, il est triste parce qu'on dit tout le temps qu'il est pas beau, qu'il a toujours un air de pleurer parce qu'il a les feuilles qui tournent vers le sol. Alors, c'est pour ça qu'il pleure. Chez ma mamie, avant, elle avait un sol pleureur. Ça me rendait heureuse de le voir. Je me mettais à côté, je le touchais et je m'assieds à côté de lui. je la voyais tout le temps sourire.
Il a l'air tellement ancré dans le sol qu'on dirait pas qu'il est mort du tout, cet arbre.
Moi, ouais, à chaque fois, il me prend aux tripes, cet arbre. Parce que même s'il est mort et déraciné, il reste là, il reste en place. Et il garde sa force et sa beauté et il va parfaitement dans le paysage. Au point où on dirait juste qu'il est assoupi. Et d'ailleurs, je trouve ça très dommage parce qu'ils ont mis une barrière. Du coup, on peut pas y aller, on peut pas les toucher. Et je comprends l'idée, c'est parce que s'il y a 100 personnes qui passent dessus, ça va finir par détruire totalement l'herbe, par détruire les arbres, par tout détruire. Mais en même temps, c'est triste. On doit enfermer la nature pour protéger la nature. Ça devrait pas être ça. Normalement, on devrait être assez conscient du monde pour réussir à se limiter nous-mêmes. Mais bon. Et en fait, c'est juste agréable de juste être là. De penser juste à là, de penser à rien, de juste apprécier, écouter les bruits autour, écouter les gens. Voilà, là d'ailleurs, en faisant cette discussion, je suis en train de me perdre dans tous les bruits que j'entends autour. Mais c'est très agréable. Et j'entends tous les bruits, j'entends le vent, j'entends le crépitage des pas sur les feuilles qui bougent au vent. Jusqu'à percevoir le plus petit son dans le plus petit immeuble. J'imagine l'horloge, les cliquetis de l'horloge dans un immeuble, au loin. La machine à café qui se met à faire du bruit. La théière qui boue. Les couteaux, comme on est à l'heure du déjeuner, les couteaux sur les légumes qu'on coupe, tout ça. Et j'entends tout ça et j'ai l'impression que tous ces sons, ils sont en moi. Qui font partie de moi et de vraiment être là et je réfléchis plus à rien. J'entends ma respiration aussi. J'ai l'impression d'être toute légère. Je pourrais m'envoler. J'ai un peu l'impression d'être à la fois séparée de mon corps dans le sens où je suis tellement légère, tellement bien que je pourrais faire ce que je veux, que je pourrais être ce que je veux, et à la fois ancrée en moi et ancrée dans la nature et ancrée. J'ai vraiment l'impression en fait d'être dans un cocon, mais pas un cocon fixe. Là, si je veux, je peux être où je veux, me rappeler ce que je veux, être qui je veux. Comme si le monde pouvait pas me voir, mais moi je vois tout. Comme si j'étais omnisciente. Je pense que c'est ça que j'aime bien maintenant en étant plus adulte chez les arbres, c'est ce sentiment d'omniscience et d'appartenance et d'identité, parce que vraiment à la fois je suis tout. Je peux prendre la place du plus petit, du petit grain de raisin qui est au milieu de la corbeille de fruits. C'est pas vraiment que je prends la place du grain de raisin ou du couteau, c'est plutôt que je ressens le grain de raisin, le couteau, tout ça sans aller à l'intérieur d'eux. Toi, c'est quelle plante que t'aimes bien ?
Les trompettes, les genres de plantes qui sont toutes fines et qui sont blanches. Je les aime beaucoup, ces plantes-là. Parce qu'elles sont belles et je trouve qu'elles le font comme la royauté. J'ai l'impression qu'elles ont des yeux et une bouche et que sinon la pétale c'est son habit et puis que la tige c'est son corps.
Tu cueilles toi des fois des plantes ou des fleurs ?
Non, parce qu'elles sont très bien là où elles sont et qu'il vaudrait mieux pas les cueillir.
Et tu penses qu'il y a d'autres êtres qui ont un langage qu'on ne comprend pas à part les plantes ?
Oui, les animaux. L'eau, le bois, tout ça.
Et qui c'est qui te l'a dit ?
Les plantes, par leurs pensées. Elles sont très bavardes.
Tu serais quelle plante, toi, si tu pouvais être une plante ?
Je serais... La fleur du désert. Parce qu'elle est belle et qu'elle est chaude.
Moi, j'ai toujours aimé ce côté de... Je pense qu'il s'est concrétisé en grandissant. Quand j'étais petite, j'aimais surtout le fait de juste être là, de parler, d'avoir une conversation avec un arbre et tout. J'aimais juste bien ça. Et puis en grandissant, c'est devenu vraiment... L'idée d'omniscience est devenue concrète.
Tu penses trop des fois ?
Oh, je pense tout le temps trop, c'est mon problème. Je réfléchis trop. En fait, le fait d'être à haut potentiel, on dit que c'est le QI, mais c'est pas le QI totalement. C'est juste que c'est une manière différente de penser. C'est qu'on pense en arborescence. Enfin, c'est vraiment un arbre. On a un tronc qui nous mène à 1000 branches. Bah, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est comme si j'avais pas de... Comment ça s'appelle ? J'ai pas de cadre dans ma pensée. Donc du coup, je peux vraiment aller où je veux. Bah maintenant, on va faire un autre côté de la fontaine. Il y a des buissons taillés. Il y a d'autres statues. Bon, ça tue toujours des statues. J'adore les statues. Je trouve que c'est assez fou dans les statues. C'est le mouvement. Enfin, on a l'impression que la statue, elle peut se remettre à bouger. C'est juste là, elle fait une pause dans son mouvement. Moi, j'aime bien la statue là. C'est une statue d'une femme. On a l'impression qu'elle empêche le ciel d'aller vers elle. Et elle est vraiment active dans le fait d'empêcher le ciel de l'écraser. Et en même temps, comme le ciel est loin, vu qu'on est loin du ciel, on dirait juste qu'elle se bat contre l'air. Et du coup, je trouve que c'est très joli parce que peut-être qu'elle se rend compte qu'elle se bat contre l'air. Et c'est la seule manière qu'elle a d'éviter la panique. C'est la Comédie Française. Le lieu qui fait rêver. Ça me fait rêver. En plus, je trouve qu'ils ont une super station de métro. Hyper mignonne. Elle est super jolie. Puis en plus, c'est quand même là que je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire mon métier. Et je veux un jour faire partie d'une troupe et un jour faire partie de ce monde et tout qui me passionne. Et voilà. J'adore. C'est tellement joli la façade. Et les pièces, elles sont bien. Tout est bien. Ça, c'est le théâtre. Mais à chaque fois, devant chaque théâtre, je me dis ça. Tous les bâtiments sont des théâtres parce que, comme dit Shakespeare, l'homme est un... Enfin, on est dans une pièce de théâtre constamment. Il faut juste qu'on... Et on joue tous un rôle. Avant de découvrir Hamlet, j'ai découvert Shakespeare au travers du Songe d'une nuit d'été. Et après, je me suis penchée vers Hamlet. Les questions que pose Hamlet sont des questions que tout le monde se pose à tout âge sur qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit assumer ce qu'on est. Depuis, je le lis tous les ans et tous les ans, ma vision évolue. Maintenant, pour moi, Hamlet, c'est pas juste un adolescent capricieux, c'est un personnage qui se pose des questions sur l'identité. Et qu'est-ce que c'est qu'être, qu'est-ce que c'est qu'exister ? C'est pas ces personnages déprimés qui se laissent aller. C'est justement des personnages qui font des choix et qui assument leurs choix, qui assument leur identité. Et c'est ça qui est beau dans Hamlet. Et plus je lis, plus je deviens quelqu'un. Ça m'aide tous les jours, ça me construit de plus en plus mon identité. Je ne suis personne. Je veux ce que je suis censée vouloir. Je porte ce que je suis censée porter. Je travaille là où je suis censée travailler. Je ne représente rien. Je n'ai jamais fait la guerre et je n'aurai sans doute jamais à la faire car la prochaine nous tuera tous. Je peux acheter des choses que je n'ai pas les moyens d'acheter, ce qui veut dire qu'elles ne seront jamais vraiment miennes. Je ne vis pas. Je ne crois pas. J'accumule. Je suis une marque, un homme blanc de classe moyenne. Mais toi, toi, tu es qui tu es. Même si le prix à payer est d'être exilé du reste du monde, je suis celui qui joue un rôle. Est-ce mal de vouloir être avec l'une des seules personnes dans le monde qui ne joue pas, d'avoir une personne dans ma vie que je sache réelle? C'est un monologue dans une série qui s'appelle Pause. C'est le monologue de Stan, qui est un personnage qui sort avec une femme trans. Et ce monologue, il m'a marqué parce que pendant longtemps, j'avais l'impression de n'être personne. Et je m'identifie vraiment à ce monologue parce que j'ai vraiment l'impression qu'au travers de ce monologue, je peux devenir quelqu'un. Et aussi cette fascination pour les gens qui, eux, s'assument et sont quelqu'un et assument qui ils sont. Moi, ça m'a toujours... J'ai toujours été émerveillée par les personnes qui assument ce qu'elles sont. Je sais pas. Juste les personnes qui assument. Toutes les personnes qui sont... Bah, qui font leur coming out, par exemple. Toutes les personnes qui simplement assument leurs idées et les disent. Moi, j'ai toujours l'impression, parce que je m'excuse tout le temps, et où j'ai toujours désolée, j'ai toujours l'impression d'être un peu... je sais pas, je m'excuse de tout. Avant, je m'excusais parce que je voulais pas qu'on m'aime pas. Je suis tombée amoureuse deux fois, d'une fille et d'un garçon. Mais il y en a eu, ça s'est mal fini, et l'autre, je lui ai jamais dit. C'est toujours dur de dire ça. Moi, j'aime pas. En fait, j'ai tellement peur de perdre une amitié que je finis juste par oublier mes sentiments. Puis là, je suis tombée vraiment amoureuse de quelqu'un. Je lui ai dit, la personne m'a rejetée. Et c'est très difficile de sentir qu'on n'est pas aimé et qu'on ne plaît pas à l'autre. Parce que on montre quelque chose de nous, on a donné une part de nous à l'autre, et l'autre n'aimera jamais cette part de nous. Et n'aime pas cette part de nous, donc c'est un peu comme si on nous rejetait nous, alors que pas du tout, c'est juste que parfois l'autre a pas les mêmes goûts. Mais c'est un peu dur parce qu'on a l'impression qu'on nous rejette nous, et que du coup si une personne ne nous aime pas, personne ne nous aime, alors que pas du tout. Et du coup moi c'est souvent ça, quand je suis pas aimée j'ai l'impression que plus personne ne m'aime, ce qui est pas vrai, et c'est ça qui est plus attristant.
Toi tu sais qui tu es?
Je pense que je suis Joséphine. C'est un peu cliché, mais je suis... je pense que c'est une femme, maintenant, plus une petite fille. Mais une femme qui a... Une femme rêveuse. C'est des adjectifs, hein, mais rêveuse. J'entends souvent les gens dire lumineuse. Et j'adore ce mot. Et j'espère sincèrement être quelqu'un de lumineux. Parce que pour moi, c'est le plus joli mot du monde. Et je suis... sentimentale. Joséphine, elle est sentimentale. Elle est un peu bizarre, mais c'est normal d'être bizarre. C'est comme dans Alice au Pays des Merveilles, cette phrase de quand elle lui dit j'ai peur d'être bizarre, et qu'il lui dit oui, tu l'es, mais tous les gens bien le sont. Quand j'étais jeune, je m'aimais pas, je me trouvais ennuyante, je me trouvais inintéressante. Je pense que la Joséphine qui avait 8 ans, elle est toujours un petit peu dans la Joséphine de 20 ans.
Tu veux réécouter la Joséphine qui avait 8 ans?
Oui, je veux bien. Je me demande ce qu'elle dit.
Pourquoi tu penses que nous, on ne comprend pas le langage des plantes?
Parce que c'est l'imagination, et que souvent, les adultes, ça n'a pas beaucoup d'imagination, et que souvent, nous, on a inventé un monde, mais il est surtout secret. Et c'est comme ça qu'on en parle et on dit qu'on a des pouvoirs.
Et quand tu seras grande, est-ce que tu auras encore le pouvoir de l'imagination, tu crois?
Oui, je crois que je vais avoir le pouvoir de l'imagination parce que j'y croirai encore.
Pardon, ça me fait rire de me réécouter parce que j'ai oublié ce que je disais et que je les pense toujours. Ça me fait bizarre d'avoir si peu changé au final depuis que j'ai 8 ans. Et Et quand j'étais petite, je disais déjà que les adultes, ils n'avaient pas d'imagination. Donc, du coup, j'ai vraiment pas changé à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, ça fait que je me rends compte que j'ai gardé ce que j'aimais et que du coup, c'est bon, je peux m'aimer. J'espère qu'on se reverra.
Bah, j'espère aussi, peut-être dans 12 ans, quand j'aurai monté Hamlet. Ça se trouve.
C'était Dans la tête des enfants surdoués avec Joséphine, 11 ans plus tard, un reportage d'Élise Andrieux, bien sûr, réalisé par Yael Mandelbaum. Merci à Joséphine et à Nelly Dussos, directrice de l'école Georges Gusdorf. Mélissa Foust, c'est notre attachée de production, et François Bréus, notre stagiaire.